Nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Romains, chapitre 10, le verset 17. La Bible dit « Donc la foi naît du message. La foi naît du message que l'on attend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. » Bienvenue au messager du jour et que Dieu vous utilise selon sa volonté.
Dieu soit loué. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire Luc chapitre 3, du verset 2 jusqu'à 6. Luc chapitre 3 va commencer en verset 2 jusqu'à 6. Et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tous les pays des environs du Jourdain, prêchant des baptêmes de repentance pour la rémission des péchés. Selon ce qui est écrit dans les livres des prophètes, des paroles d'Ésaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins reboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Amen. Nous allons parler du thème de toute la campagne de notre évangélisation de l'opération Jean le Baptiste qui dit « Préparez le chemin du Seigneur et aplanissez ses sentiers. » Préparez le chemin du Seigneur et aplanissez ses sentiers. Je dois vous rappeler, parce que vous le savez, qu'aujourd'hui, nous lançons officiellement la grande opération Jean le Baptiste, qui a été inaugurée dès le dimanche passé. Nous vous en avions parlé à partir du dimanche passé. Et nous remercions grandement les différents intervenants de la semaine passée. Nous remercions donc le prédicateur. Nous remercions les modérateurs, nous remercions les choristes, les diacres, les protocoles et consorts qui ont travaillé au cours de cette semaine. Nous remercions aussi les groupes, les différents groupes qui ont été présents pour nos différents enseignements qui leur concernent. Mais surtout, nous louons Dieu pour avoir rendu possible notre activité phare qui a plus marqué la semaine, qui est l'encadrement des enfants de la rue. C'est ça l'activité qui a plus marqué la semaine. En tout cas, je remercie tous ceux qui se sont donnés pour l'encadrement de ces enfants. Vous avez bien fait, vous tous qui vous êtes donnés pour l'encadrement de ces enfants de la rue. Il y a d'autres qui ont donné leur bien parce qu'on leur a donné parfois des habits, on leur a donné la nourriture, on leur a donné la bouillie, on leur a donné certaines choses que vous avez données, vous les hommes de Dieu. En tout cas, nous vous disons grandement merci. Nous disons grandement merci pour tous ceux qui sont encore disposés jusqu'à présent à continuer à donner des stratégies efficaces pour aider ces enfants de la rue à intégrer définitivement leur vie de famille. Je dois vous informer que déjà à partir d'hier, il y avait presque 16 enfants qui ont accepté qu'ils peuvent rentrer chez eux. Et déjà deux sont déjà retournés dans leur toit paternel. Et nous disons grandement merci. Il y a d'autres qui doivent rentrer. Il y a des préalables pour qu'ils rentrent chez eux. Bon, je sais, il y a encore des serviteurs de Dieu qui sont disposés à donner leurs moyens, leurs biens, qui sont disposés à nous accompagner pour que ces enfants rentrent chez eux. Ce qui nous a marqué le plus, c'est le fait que nous avons constaté que ces gens savent qu'ils sont quand même des humains. Ça nous a quand même marqué positivement qu'ils savent qu'ils sont des humains, mais qui nombreux quittent leur toit paternel pour des atrocités leur imposées par leurs parents. Et ils évoluent d'année en année dans un contexte de violence où la méchanceté est la norme. Toute leur vie, ils vivent dans le contexte de la violence. Et la méchanceté, c'est ça la norme. Ce qui est normal, c'est ce qui est anormal pour eux. C'est pourquoi, depuis hier, je suis en train de demander à Dieu de nous donner le plus vite possible, les autorités pouvaient être prêtes à faire de cette question leur priorité. Parce que, dans le cas contraire, ces gens-là sont une bombe à retardement. Quand ils vous racontent ce qu'il faut là où ils sont, vous comprenez qu'ils sont une bombe à retardement. Et parmi eux, il y a les enfants de tout âge. Il y a d'autres avec qui j'ai pris la photo. Parmi eux, il y a ceux qui ont 4 ans. Et d'autres 5 ans. Et vous imaginez, il y a d'autres qui ont 12 ans, 13 ans et qu'on sort. Je pense qu'on peut vous montrer la photo de ces enfants-là. À vous les regarder et ils vous disent que, bon, en tout cas, nous sommes là. Et vous vous imaginez comment ils vivent et quand ils vous racontent ce qu'ils font. Les chèvres, n'est-ce pas? Il y a certains parmi nous qui n'ont jamais vu les chèvres. N'est-ce pas? Oui, moi j'ai vu les chèvres. C'était l'année antérieure. C'est quand j'ai vu la forme du chèvre. Mais les chèvres, c'est ça la vie. Ils savent là où on vend les chèvres. Et ils connaissent. Je voyais l'évangéliste Merveille en train de leur poser la question de savoir les noms des drogues. Il vous cite les noms des drogues que toi, tu n'as jamais entendu. Déjà à 4 ans, à 5 ans, à 10 ans, on connaît les drogues que toi, tu ne connais pas et peut-être que tu ne connaîtras pas jusqu'à la fin de ta vie. En tout cas, nous disons grandement merci à vous tous qui vous intégrez, qui participez à cette opération Jean le Baptiste. Ce matin, pour lancer cette opération, je souhaite vous faire remarquer quelques spécialités pour le ministère des gens afin de booster encore votre ministère. C'est ça vraiment mon objectif. Je veux que vous puissiez encore une fois booster votre ministère. Mais je veux quand même vous rappeler d'abord que les textes que nous venons de lire à Luc chapitre 3, versets 2 à 6, c'est une suite logique ou l'accomplissement de la parole de Dieu qui est à Luc chapitre 1, versets 13 à 17, qui concerne l'apparition de l'ange de Dieu à Zacharie, futur père des gens, à pleine prestation. Il y a un moment, Zacharie, qui était serviteur de Dieu. Il a servi Dieu toute la vie, jusqu'à sa vieillesse avec sa femme. Et il priait parce qu'il n'avait jamais eu d'enfant. Mes chers amis, si vous n'avez jamais eu d'enfant, ne pensez pas que Dieu vous a oublié. Dieu vous connaît et il s'occupe de vous. Votre souffrance, votre douleur les concerne. On nous dit que l'ange est apparu et a rencontré Zacharie à sa vieillesse. Il lui a dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint, dès l'essai de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants, les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien comment disposé. Un peuple bien disposé. Voilà la grande mission des gens qui lui est confié dès sa conception. Alléluia. Dès sa conception, il a la grande mission comme celle-là. J'ai été surpris parce que j'ai vu que Dieu a donné Jean à ses parents et leur a précisé sa mission. Quand Dieu donne Jean à sa famille qui n'a jamais eu d'enfant, il précise sa mission. Et mes chers amis, vous tous qui êtes ici, je dois vous informer que Dieu ne crée pas une personne inutilement pour gaspiller sa terre. Mais il crée des personnes avec une mission. Chacun qui est ici a sa mission. Il faut demander à Dieu pourquoi il t'a créé. Il ne faut pas rester chez toi sans savoir pourquoi Dieu t'a créé. Il ne peut pas créer une personne pour gaspiller sa terre. Et à certaines personnes, il leur a confié des missions qui sont compliquées. En un certain moment, quand je lisais Jérémie chapitre 1, verset 10, je me dis, mais la mission qu'il accorde à Jérémie n'est pas facile. Il dit, il a la mission d'arracher, il a la mission d'abattre, il a la mission de ruiner, la mission de détruire pour bâtir et planter. Alléluia. Si on vous affecte un pasteur ici, à Gomaville, et dans sa première présentation, il dit, vraiment désolé. Celui qui m'a confié l'affectation m'a dit que je vais faire quoi? Je vais arracher tous les arbres que vous avez déjà plantés ici. Je vais faire quoi? Je vais les arracher. Il ajoute que la deuxième mission, c'est quoi? Abattre. La deuxième mission, je vais abattre. La troisième mission, c'est de faire quoi? De ruiner. Soit il va ruiner ce temple, il va le mettre par terre. L'autre mission, c'est quoi? Détruire. Les pasteurs comme ça, vous allez l'accueillir. Est-ce que vous allez dire qu'il vient de Dieu vraiment? C'est ça la mission que Dieu m'a donnée. Et cette mission n'est pas facile parce que non seulement il va faire ça, mais il va encore bâtir et planter. Comment vous allez bâtir et planter avec les personnes qui n'ont pas été avec Dieu, avec toi devant Dieu, quand il t'a donné la mission de détruire les temples? Tu l'as détruit ça et... Comment tu vas bâtir? Comment tu vas planter? Rassurez-vous, mes chers amis, que vous devez vous rassurer que vous connaissez votre mission alors que vous vivez sur cette terre. Vous devez le savoir parce qu'il dit, je viens bientôt pour payer chacun selon quoi? Selon ce qu'il aura fait. Dieu sait que tu es en mission ici sur la terre. Alors tu dois lui demander de te dire. Et je dois vous dire aussi que si quelqu'un meurt sans accomplir sa mission, alors il est raté. Alléluia. Si tu meurs sans accomplir ta mission, tu es raté. Donc nous avons des papas ratés, nous avons des mamans ratées, nous avons des garçons ratés, et nous avons des qui ratés. C'est qui parmi nous? Ces ratés-là, c'est qui? Ah, vous ne les connaissez pas? Il y a des papas ratés qui ne connaissent pas leur mission. Leur présence n'est pas connue. Et même lui-même n'est pas connu. D'ailleurs, pour la famille, il est danger pour la famille. N'est-ce pas? Il y a des papas qui sont danger pour la famille. Un jour, Jésus a prononcé une parole méchante envers quelqu'un qui est raté, qui a raté sa mission. C'était qui? C'était Judas. C'est une parole très, très méchante. Il a dit, l'un des disciples va me livrer. Et il a poursuivi, malheur à cet homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait quoi? Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Ingekuwa heri ule mtu asingelifanya nini? Asingelizaliwa. Il y a des gens qui sont dans nos familles qui ne devraient pas naître parce qu'ils nous embêtent trop. Ils nous embêtent trop. Quand tu les regardes, tu sais que vraiment, sa présence, c'est une menace à la famille. Quand il a voyagé, vous respirez épais. Quand il n'est pas là, vous vous sentez en sécurité. Mais quand il se présente, en tout cas, vous sentez que... On se demande si Dieu s'est trompé à l'écrayant. Parce qu'on se dit, mais est-ce que ce monsieur, sa présence, c'est une menace? Et c'est une parole que j'ai souvent médité. Je me dis, mais quand même, il faut que chacun prie pour lui. Et c'est pourquoi je vous dis, il faut que tu puisses connaître ta mission. Mais connaître sa mission, c'est une chose, mais aussi l'accomplir, c'est une autre. Alléluia. On peut connaître sa mission, mais sans l'accomplir. Alors, ce que j'ai trouvé dans ce texte, j'ai constaté que Jean a été conscient de son ministère. Jean, lui, a été conscient de son ministère. C'est pourquoi il a senti que avec ou sans autorisation, il doit accomplir quoi? Sa mission. Il était conscient que j'ai une mission. Alors avec ou sans l'approbation des autres, je dois l'accomplir. Et je dois vous dire, mes chers amis, dans l'œuvre de Dieu, nous pouvons être tous dans le même ministère. Mais n'ayant pas la même conscience de la mission de Dieu. Nous pouvons être ensemble. Nous sommes des pasteurs, nous sommes des anciens de l'église, nous sommes des protocoles, nous sommes des diacres, ainsi de suite. Mais parmi nous, il y a trois catégories de personnes. Il y a une catégorie de personnes qui sont conscientes, de leur mission. La deuxième catégorie de personnes, ce sont des personnes qui ont bien sûr la mission de Dieu, mais ils ne sont pas informés qu'ils ont la mission de Dieu. Ils peuvent même servir Dieu, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train d'accomplir la mission de Dieu. Il y a la troisième personne, ce sont les suiveurs. Nous les avons qui font comme tout le monde, qui font ce que tout le monde fait. Et ils sont des suiveurs. Alors, ceux ayant la conscience qu'ils ont une mission de Dieu travaillent assidûment. Vous les voyez en train de travailler et vous sentez qu'il sait qu'il est en train de servir Dieu. Il ne travaille pas parce qu'on l'a poussé. Il ne travaille pas parce qu'on lui a rappelé. Vous allez constater, quand il est absent à la réunion, il vous explique et il s'excuse parce qu'il sait que ce qu'il est en train de faire, il est en train de le faire pour Dieu. Il n'accomplit pas la mission de la personne. De telles personnes ont la joie de servir Dieu. De telles personnes, ils n'ont pas besoin de vos encouragements. De telles personnes, ils n'ont pas besoin d'être soutenus. Ils n'ont pas besoin d'être remerciés. Ils savent que c'est la mission de Dieu qu'ils sont en train d'accomplir. Et vous, nous les avons dans nos églises. Vous allez les rencontrer en train de travailler assidûment. Mais nous avons une deuxième catégorie. Ce sont les personnes qui ont la mission de Dieu, mais qui ne savent pas. Ils pensent qu'ils sont devenus ce qu'ils sont, ils font ce qu'ils font parce que bon, on leur a demandé de les faire. Et ils accomplissent des choses, ils peuvent les faire, on sait se rendre compte. Ils sont parfois des personnes qui sont sauvées, ils sont des chrétiens, mais qui font des choses, bon, parce qu'on leur a demandé de les faire. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de servir Dieu. Et déjà comme ça, si vous les menacez, ils vous disent, en tout cas, parce qu'ils pensent que c'est pour toi. Ils pensent que c'est pour les pasteurs. Ils pensent que c'est pour les hommes. Alors des personnes comme ça, ils servent avec les autres sous leur encouragement. Mais seulement quand ils ont... Ils peuvent seulement travailler quand ils ont du temps. S'ils sont engagés ailleurs, ils abandonnent. S'ils sont occupés autrement, ils laissent. Et ils ne peuvent même pas s'excuser. On va demander que les anciens de l'église se réunissent. Il est ancien de l'église, il sait. Mais il ne s'excuse même pas. Et si tu lui poses la question, pourquoi tu n'es pas arrivé? Il te dit, est-ce que je suis obligé d'arriver chaque jour? Il est diacre. Et on peut demander aux diacres de faire leur travail, de se réunir. Et lui ne vient pas. Vraiment, il n'est pas gêné. Et si tu lui dis, mais n'est-ce pas, on vient de demander au diacre de faire ceci? Il dit, oui, j'ai attendu. Il dit, mais maintenant, pourquoi tu ne te lèves pas? Il dit, bon, est-ce que je ne suis pas programmé? Bon, alors, bon, il est ami de la propriété. Mais il faut qu'on lui rappelle qu'il doit faire ceci ou cela. Il faut qu'il soit encouragé. Alors, des personnes comme ça, bon, ils sont dans le service de Dieu. Mais je dois vous dire qu'il faut des serviteurs de Dieu pour leur rappeler que toi, tu n'es pas en train de servir les hommes. Alléluia. Si tu as un choriste à côté de toi, est-ce que tu peux lui rappeler qu'il n'est pas en train de servir les hommes? Essaie de le lui rappeler. Ah, si tu as un serviteur de Dieu à côté de toi, est-ce que tu peux lui rappeler qu'il n'est pas au service des hommes? Il ne faut pas penser que tu viens servir Daniel ici. Tu ne viens pas servir Festo. Tu viens servir Dieu. Alléluia. Des personnes comme ça, il faut les rappeler. Parce que s'ils n'accomplissent pas la mission de Dieu, Dieu va les sanctionner. Vous savez, il y a un monsieur qui s'est cru, il a pensé qu'il était intelligent plus que Dieu. Dieu l'a rencontré, il lui a dit, mais monsieur, j'ai une mission à Ninive, il faut que tu ailles travailler là-bas. Lui a pensé qu'il est plus intelligent que Dieu, il a accepté et il lui a dit, Nitamouanesh. Au lieu d'aller à Ninive, il est allé où? À Tarsis. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a pensé qu'il est plus intelligent que Dieu. Et là, on a vu les bateaux en train de chavirer. On a commencé à constater des choses extraordinaires. Et après un certain moment, on a commencé à lutter. On a jeté les biais. On a fait des grosses pertes. Jusqu'à ce qu'on a constaté que non, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Est-ce qu'on peut prier notre Dieu? Et après, on a constaté qu'il y a un mercenaire, un monsieur qui a la mission de Dieu qu'il n'a pas accomplie. Et il a gêné tout le monde jusqu'à ce qu'on a dit non, pour être sauvé, il faut qu'on les jette où? Il faut avoir le malheur de travailler avec quelqu'un qui a refusé la mission de Dieu. Vous allez voir. Quand on a un aboutembo, on a fait déjà pas qu'on perpe, on a utilisé la carte de baptême. La carte de baptême, on nous la pose. Et on vous gêne là-bas, on vous dérange. Vous ne savez pas que vous avez un monsieur qui a fui la mission de Dieu. Si tu les mets dans ta boutique, tu as des problèmes. À tout moment, on te dérange, tu ne comprends pas. Parce que tu as un monsieur qui a fui la mission de Dieu. Il ne faut jamais fuir la mission de Dieu. Il y a des personnes qui sont maudites. Il y a des personnes qui n'ont jamais été bénies parce qu'ils n'ont pas accepté de suivre la mission de Dieu. Alors, ils sont là. Rien ne marche. Rien ne va parce qu'ils ont refusé. Il y a des grands malades. Vous pouvez aller gêner, vous prier pour eux. Ce n'est pas qu'ils sont malades, mais ils ont refusé d'accomplir la mission de Dieu. Ils se sont pensés être plus intelligents que Dieu. Et Dieu leur a montré qu'ils ne sont pas intelligents. Et il les a punis. Alléluia. La troisième personne, les troisième personne, ce sont les suiveurs. Et généralement, ils sont des païens. Mais ils entrent dans le ministère avec des intérêts ou ils sont des outils du diable pour déstabiliser l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui sont dans les ministères, dans les églises, et ils sont dans les ministères de Dieu, ils viennent seulement pour déstabiliser. Et déjà, en question, ils sont très courageux, souvent. Et parfois, il faut faire attention avec des gens comme ça. Même quand vous demandez des offrandes, ce sont eux qui donnent plus que tout le monde. Et ils sont prêts à donner plus que tout. Ils ont constaté que les vrais chrétiens sont des chiches. Bon, je ne mens pas. Est-ce que je mens? Il faut demander au diacre à la comptabilité là-bas. Les vrais chrétiens de l'église ne donnent pas. Quand on demande la souscription, quelqu'un qui peut souscrire 1 000 $, 10 000, 20 000, lui seul. Mais on les voit en train de... Ou il ne souscrit même pas. Quand tu lui poses la question, il dit non. En tout cas, vraiment, moi je ne veux pas tenter Dieu. Ah, tu ne veux pas tenter Dieu. Et quand on lui demande de donner les offrandes, tu vois ce qu'il a donné, tu ne comprends pas. Ils sont des grands chiches. Mais ces serviteurs du diable est là. Et savent nous défier. Alléluia. Je me souviens un jour, j'étais à Kampala et j'avais des amis musulmans. Et en tout cas, ils sont très courageux, les affaires du diable. Ils m'ont sollicité, ils m'ont dit, mais pasteur, est-ce que tu ne peux pas accepter d'être musulman? J'ai dit, ah bon, vous voulez que je sois musulman? Ils disent oui. Ils disent, mais si tu acceptes d'être musulman, alors nous te garantissons une villa ici à Kampala, mais nous allons aussi te donner une femme et nous allons te nourrir toi avec ta femme. Et je leur ai dit, moi j'ai une femme et les affaires à Goma. Ils ont dit oui, nous allons amener aussi ta femme et tes affaires ici. On te donne une villa, on te donne une femme, on va ajouter ta femme qui est à Goma et tes affaires. Et nous allons te garantir ta vie, la vie que tu veux. Je les ai regardés. J'ai dit, mais vous avez le courage de parler à quelqu'un comme moi. Alors les chômeurs qui sont là, est-ce qu'ils peuvent refuser cette offre? Ces chômeurs qui sont là. Les jeunes filles qui se prostituent pour 5 $. N'est-ce pas, elles sont là? Elles sont là. Quand elle a été engrossée, vous lui dites, mais comment tu as été engrossée? Elle n'y partait qu'à 5 $. Mais, tu as gâché toute ta vie à cause de combien? 5 $. Alors, de personnes qui sont utilisées par les diables, en tout cas, ils servent le diable dans le ministère. Mais quand leurs intérêts sont menacés, ils peuvent se révolter, même révolter les autres. Il faut faire attention quand vous êtes dans le ministère, quand quelqu'un commence à vous dire non. En tout cas, si cette décision-là ne marche pas à l'église, nous quittons. Il faut bien le regarder. Parce que vous ne savez pas s'il est là pour le compte de qui. À l'église, on ne démissionne pas. Alléluia. On ne démissionne pas à l'église, on ne démissionne pas dans les ministères. Si vous voyez quelqu'un, parce que vous avez été menacé pour une raison noble ou pas, quelqu'un qui commence à vous dire non, en tout cas, moi j'ai constaté que ce pasteur-là, il ne comprend pas, il fait ceci et ainsi de suite. Nous, pour lui prouver que nous sommes là aussi, on peut faire ceci. Il faut le regarder. Tu ne sais pas s'il est là pour le compte de qui. Alléluia. Alors, ils sont des hommes qui sont courageux, mais sans la mission de Dieu. Ils ne servent pas Dieu. Alors, l'autre caractéristique que je vis chez Jean-Baptiste, Jean avait une mission de Dieu, bien sûr, mais personne ne pouvait lui donner l'espace. Vous savez, c'est un garçon, un fils de sacrificateur, un monsieur qui n'était pas, apparemment, il n'était pas riche. Parce qu'on dit qu'il s'habillait à quoi? Hein? Oui. Et à manger quoi? Voilà. Est-ce que quelqu'un comme ça est présentable? Est-ce qu'on peut lui faire la chair à Gomaville? Ah, vous m'avez fait ça parce que je suis bien habillé. Est-ce que c'est ça? Non, non. Je suis en train de vouloir dire que tu peux avoir la mission de Dieu. Tu peux être conscient que tu as la mission de Dieu. Mais personne ne va te donner l'occasion de l'exécuter. Alléluia. Est-ce que c'est pour une raison pour abandonner ça? C'est une raison. On ne te l'accorde pas. Tu sais que c'est Dieu qui t'a envoyé. Tu es conscient. Et tu es un Jean-Baptiste qui s'habille à peau. Donc on ne peut même pas te regarder. On ne peut même pas te compter parmi les amis de la propriété, parmi les diacres, parmi les anciens, parmi les pasteurs. On ne peut même pas te considérer. Mais tu as la mission de Dieu. Est-ce que c'est une raison pour abandonner? C'est pourquoi lui choisit d'aller exercer sa mission dans le désert, où personne ne lui dira, tu as chanté, tu as prié, et qui t'a dit de prêcher, tu es en train de nous déranger. Il a dit, je dois exécuter ma mission, peu importe les conditions. Alors, bien qu'il y ait la conscience, nous devons savoir que nous ne serons pas toujours acceptés. C'est pourquoi notre Seigneur nous a dit, il y aura quelque part où nous irons prêcher l'évangile, où on va nous accueillir. Et là, on nous a dit de proclamer la paix de Dieu là-bas. Il a dit quand même que quelque part on va arriver, on ne va même pas nous accueillir. On va nous refuser, on va nous chasser, on va nous persécuter. Et il ne nous a pas dit d'abandonner. Il a dit de faire seulement quoi? De secouer la poussière de nos pieds. On secoue la poussière de ses pieds. Ça signifie que tu te prépares pour aller davantage prêcher. Même si on t'a persécuté, on t'a fait comment? Tu dis alors, je lave bien mes souliers parce que ma marche est encore plus grande. Alléluia. Est-ce que tu as déjà été persécuté? Ce n'est pas notre raison d'abandonner le ministère parce qu'on nous a refusé. Nous avons seulement le droit de secouer la poussière de nos pieds. Le reste appartient à Dieu. Quand on est conscient de la mission de Dieu, on les fait pendant les moments favorables et pendant les moments qui sont comment? Défavorables. Alors, quelque chose de très important que j'ai trouvé chez Jean. Jean était conscient qu'il avait la mission de Dieu pour toutes les couches de la société. Il savait qu'il doit prêcher à la foule. Il savait qu'il doit prêcher aux péagers. Il savait qu'il doit prêcher aux militaires. Il savait qu'il doit prêcher aussi au public, à tout le monde. Il doit rencontrer toutes les couches de la société. Il savait cela. Et je dois vous dire que ce qui fait que nos églises n'évoluent pas actuellement, c'est que nous avons sélectionné les personnes qui ont droit à la prédication. Vous savez, à un certain moment, on était en train de se dire, la logique de Jean-Baptiste, c'est que chacun donne 10 personnes. Et vous savez, actuellement, le diable nous a donné cet esprit d'aveuglement que nous, quand on te demande de trouver les 10 personnes à prêcher, tu les manques. J'ai vu les gens qui disent, non, ça c'est trop demander aux gens. Comment tu peux demander à quelqu'un d'énumérer combien? 10 personnes qui doivent être évangélisées. Est-ce que dans la ville de Goma, vraiment, on peut manquer les 10 personnes à évangéliser? Si on vous demande les 100, vous faites les manquer 100 personnes à évangéliser. Mais c'est un esprit qui nous limite. Ça limite nos églises à prêcher seulement certaines personnes. Les personnes qui viennent chez nous, nous encadrons seulement des personnes qui se présentent chez nous. Bon, nous pensons que les autres n'ont pas droit au salut. Mais qui pense que la grande paroisse comme Gomaville, on peut manquer un général? Est-ce que la grande paroisse comme Gomaville, est-ce qu'on peut manquer un général? Est-ce qu'on peut manquer un colonel à Gomaville? Est-ce qu'on peut manquer de grandes personnalités de la mairie, du gouvernorat, de DGDA et de partout? Ça signifie qu'on ne sait pas que les gens sont là, qui ont besoin du salut. On ne sait pas que les gens sont dans des universités, ils sont au marché, il y a des enfants de la rue là-bas. On ne sait pas. On ne sait pas qu'il y a des gens qui ont besoin du salut. Mais nous nous contentons à dire, bon, alors, en tout cas, les gens, la participation a été de autant de personnes. En tout cas, nous avons travaillé. Alléluia. Et il faut un Jean-Baptiste qui va vous rappeler que les foules sont là. Il y a aussi les publicains. Il y a aussi les péagers. Il y a aussi les qui. Il faut qu'il nous les rappelle. Alors, c'est aussi un aveuglement total que nous devons combattre. Nous devons demander à Dieu à nous ouvrir les yeux et savoir les personnes qui sont en train de gémir dans les péchés, qui sont en train de souffrir par les péchés. Et vous savez, notre prétexte, c'est de dire, mais où est l'argent? Jean avait combien? Il avait quel budget, Jean? Mais il a prêché les foules, il a prêché les autres groupes, les petits groupes, il les a prêché la parole de Dieu. L'autre prétexte, nous disons, mais est-ce que nous avons le temps? Est-ce que nous avons le temps de les affermir? Ce sont les arguments que nous disons. Vous savez, en tout cas, il ne faut pas prêcher quelqu'un et l'abandonner. Les gens que Jean a prêché, qui les a affermis? D'ailleurs, toi-même, là où tu es là-bas, qui t'avait affermi? Il y a certaines personnes qui n'ont pas été accompagnées comme nous on les pense. Mais par la grâce de Dieu, ils sont ce qu'ils sont. Je dois vous dire que si Dieu t'aide à prêcher une personne et l'accompagner jusqu'à un niveau, il faut dire que c'est la grâce. Mais tu ne peux pas ne pas prêcher l'évangile parce que tu dis que tu ne sauras pas les affermir. Parce que ce n'est pas ta tâche. C'est Dieu qui doit s'occuper de tout le monde. Ta mission, c'est de prêcher l'évangile. Quelque chose de très spécial que j'ai trouvé chez Jean-Baptiste, c'est que le Seigneur a choisi cette moindre des personnes pour aller se faire baptiser chez lui. Vous connaissez Jésus-Christ, n'est-ce pas? Bon, s'il arrive ici pour être baptisé, vous pensez que la liturgie sera faite par qui? Parce que c'est n'importe qui va faire cette liturgie. Vous pensez que ce jour-là, qui va prier? Est-ce que c'était petit comme Daniel? Alors, la plus forte est toi, tu n'auras pas de place là-bas. Est-ce que vous pensez que si Jésus arrive, alors qu'il demande d'être baptisé, il sera baptisé par qui? Mais notre Seigneur sait valoriser nos ministères parce que nous avons accepté d'accomplir sa mission. Alléluia. Quand tu acceptes d'accomplir la mission de Dieu, il te donne de la valeur plus que des révérends pasteurs, plus que les évêques, plus que les qui? Parce que tu as accepté d'accomplir sa mission. Et quand il veut aller se faire baptiser, il va chez qui? Chez Jean-Baptiste. Et quand il arrive chez Jean-Baptiste, Jean-Baptiste lui-même dit non, non, vraiment, tu sais, en tout cas, je ne peux même pas t'approcher vraiment. Comprends mon Seigneur. Il dit non, tu vas me baptiser. Et je dois vous dire que la première expérience de la Trinité s'est manifestée chez qui? Chez Jean-Baptiste. C'est ce jour-là qu'on a vu Jésus là-bas. On a vu l'Esprit de Dieu qui s'est posé sur Jésus comme la colombe. Et c'est le même jour qu'on a entendu la voix de Dieu qui disait quoi? Voilà. Mes chers amis, quand nous acceptons de marcher, d'accomplir la mission de Dieu, il nous valorise. Il nous donne la place. Il nous donne l'estime. Et vous constatez qu'il va vous rencontrer là où on vous a jeté. Là où on vous a oublié, là dans le désert, il va vous rencontrer là-bas. Et il dit, c'est ici où je serai baptisé. Alléluia. Alors, je vais terminer en vous disant que nous sommes obligés de prêcher l'évangile. Nous sommes obligés. Ce n'est pas de l'option. Alléluia. Non, non, ce n'est pas vraiment de l'option. Tu es obligé de prêcher l'évangile. Et je dois vous dire aussi que tous les autres ministères, ce n'est pas réservé à tout le monde. Les autres ministères, quand vous lisez 1 Corinthiens 12, quand nous l'avons lu toutes les semaines qui sont passées, on a énuméré les dons spirituels. Mais on disait, on a donné tel don. Aux autres, on a donné tel don. Ainsi de suite. Mais quand Christ parle de l'évangélisation en Actes des Apôtres, il dit, vous serez tous, quoi? Mes témoins. Donc, l'évangélisation n'est pas réservée à certaines personnes, des pasteurs, des chantres, de qui. Là, c'est le don de chacun. Chacun doit prêcher. Alléluia. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont mal interprété. Je sais, mon pasteur m'a tout moi à sa manière de prêcher. Et il a défié certaines personnes quand il était en train de montrer que plus on est en train de grandir spirituellement, on a son langage personnel avec ce Dieu. Et il y a certains qui ont pensé qu'il était en train de demander à chacun de parler en langue. Hein? Non, c'est pas comme ça. Il était en train de vous montrer que quand vous grandissez en relation avec Dieu, alors Dieu vous communique son langage et vous commencez à s'adresser directement avec lui. Je dois vous dire que même le parler en langue, c'est un don qui a été donné aux uns. Ce n'est pas à tout le monde. Et il ne faut pas chercher à vous forcer à nous embêter ici avec des charabiens pour nous chercher à nous intimider. Non, non, sinon on va te chasser de cette église. Ici, ce n'est pas l'église déjà qui intimide les gens. Oh, charabia, charabia, charabia. Qui t'a dit que c'est ça l'évangélisation? On te chasse, te dit, tu nous quittes. La vraie forme de parler en langue, c'est celle des actes des apôtres. On nous dit que chacun parlait à sa langue maternelle, n'est-ce pas? Mais tu parles dans ta langue maternelle, mais quelqu'un qui ne comprend pas cette langue maternelle, il t'écoute dans sa propre langue. Alléluia. Il t'écoute dans sa propre langue. Tu ne fournis pas les efforts. Ce n'est pas une langue préfabriquée. Il y a des langues qui sont préfabriquées. On dit, oh, robo, robo, sans agir. Toi aussi, tu répètes, robo, robo, sans agir. On dit, bon, oh, chara, 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 kaka, kaka, kaka. Et toi aussi, tu répètes, chara, chara, chara. Non, non, ce n'est pas une langue préfabriquée. On prêche. Je prêche à Kinan. Et parce que je ne connais que le Kinan. Alors, je prêche à Kinan. Et quelqu'un qui ne connaît que le Kiunde m'écoute dans sa langue maternelle. Alléluia. Et on a dit en Actes des Apôtres que les gens ont parlé en langue. Mais ils n'ont pas parlé le charabia. Il y a des gens qui ont commencé à faire des charabia. Et Paul a dit non, non. En tout cas, nous n'avons pas besoin de ça. D'ailleurs, si tu commences à parler de charabia, il faut avoir quelqu'un à côté de toi qui fait comment? Qui t'interprète. Il ne faut pas chercher à intimider les gens. Vous savez, il y a des gens qui pensent que être spirituel, c'est commencer à parler les charabia là-bas. Oh, Santa, Santa, J, Santa, Santa, J, Santa, Santa, J. Non, non. Ce n'est pas ça la spiritualité. La spiritualité se manifeste par trois choses. La spiritualité se manifeste par la crainte du péché. On se sanctifie davantage. La spiritualité se manifeste aussi par la consécration à le Seigneur. On se consacre à le Seigneur. La spiritualité se manifeste aussi à sa manière d'offrir les offrandes. Quelqu'un qui se connaît, un spirituel, c'est quelqu'un qui respecte Dieu dans sa dîme. Quelqu'un qui respecte Dieu dans ses offrandes. C'est quelqu'un qui sait aussi passer aux autres. C'est ça la spiritualité. Ce n'est pas le sang de sang d'agir. Alléluia. Je vais terminer en vous disant, mes chers amis, nous sommes appelés. Cette semaine, nous inaugurons l'opération Jean le Baptiste. Et nous sommes en train de demander à chacun de préparer le sentier de l'Éternel et d'aplanir ce sentier. C'est ce que nous allons faire, nous tous. Donc, ceux qui ne sont pas conscients qu'ils ont cette mission-là de l'évangélisation, il faut les rappeler. Je sais qu'ils n'ont pas compris. Ils sont parmi nous là-bas, qui ne savent pas qu'ils sont concernés par l'œuvre de l'évangélisation. Il faut les leur rappeler. Et ceux qui ont commencé, nous leur disons merci. Continuez. Et ceux qui, et les autres là, il faut leur dire qu'ils sont concernés. Nous devons tous nous unir ensemble et commencer à servir Dieu, à proclamer l'évangile de Dieu. C'est ça l'opération Jean le Baptiste. Et à ces mots, je déclare solennellement l'ouverture de cette opération Jean le Baptiste, et que Dieu bénisse sa parole.